Nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu, vous qui avez cru, vous qui avez été baptisés, vous qui avez été... Voilà une grande déclaration et l'apôtre Paul y revient un petit peu après, si vous êtes fils, etc. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans quel but Paul fait cette déclaration ? On se rappelle le contexte des chrétiens de Galatie. Certaines personnes étaient venues et les influencer, les pousser à revenir à la loi. Ils avaient commencé par découvrir la grâce, ils avaient découvert les choses de l'esprit, puis on leur disait, il faut revenir aux choses de la loi, etc. Et c'est dans ce contexte que Paul leur dit, non, vous êtes devenus des fils de Dieu. Conduisez-vous comme des fils de Dieu. C'est plus qu'un nom donné aux croyants. C'est un titre. Lorsque Jésus vient dans notre vie, lorsqu'il devient notre sauveur, nous devenons enfants de Dieu par la régénération, la nouvelle essence. Et en même temps, nous devenons fils et filles de Dieu par l'adoption. Quand j'expérimente la nouvelle essence, on le vit intérieurement. On entend cette voix de l'Esprit qui dit « Désormais, tu m'appartiens. Tes péchés sont effacés. » On le vit, on l'expérimente. Mais lorsque nous expérimentons la nouvelle essence, on expérimente aussi l'adoption, même si on ne le ressent pas. Et nous devenons fils de Dieu. On est à la fois enfant et fils. Il y a une différence. On ne sera pas tout le temps des enfants, mais on sera toujours le fils de quelqu'un. Fils, c'est une position. Dieu a exercé sa grâce. Nous étions comme des orphelins, comme des esclaves qui ont été adoptés, comme des enfants qui ont été récupérés. Et Dieu a donné du sens à notre vie. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a ce passage, ce beau passage. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans les langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services et te témoigner de la compassion. Au jour de ta naissance, on t'a prise en dégoût, et tu as été jeté au milieu des champs. J'ai passé près de toi, et je t'ai aperçu te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel te déclare, c'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé à grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait. Puis, je t'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée, je t'ai chaussé de cuir fin, je t'ai drapé dans du fin lin, je t'ai couvert d'un manteau de soie, je t'ai paré de bijoux, je t'ai orné et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine de la plus fine, du miel, d'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. C'est une allégorie. C'est Dieu qui rappelle à Israël ce qu'ils sont devenus. Ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Mais cette allégorie, elle évoque aussi notre expérience. Nous étions comme jetés dans les champs, dignes d'être haïs, orphelins. Et Jésus est venu et il nous a dit « Vie ». Et il nous a lavés. Il a donné du sens à notre vie. Ça, c'est la grâce. C'est l'adoption. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est bon toujours de s'en rappeler. Ce matin, dans ce temps de louange, on veut se rappeler que nous étions rien du tout. Et Jésus nous a adoptés. Et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Paul affirme que l'adoption, elle est pour tous. C'est pas réservé à quelques-uns. Il n'y a ni juif, ni grec. Je rappelle et je reviens un petit peu sur le contexte. Hein, mais on disait à certains qu'il fallait devenir juif pour être sauvé. Non, non, non. La grâce, l'accès à la grâce, c'est pour tous. Pas réservé seulement aux hommes. Ni hommes, ni femmes. Tous ont accès à cette même grâce, aux mêmes privilèges qui vont avec. Dieu ne propose pas un salut de seconde division pour les dames. Il y a égalité dans l'expérience du salut et de la grâce, même s'il y a une différence qui reste. Il y a d'autres textes. Je dis ça parce que certains justifient le pastorat féminin avec ce texte. Je dis aussi que d'ailleurs, ceux qui prônent l'homosexualité en tant que chrétiens, ils se servent aussi de ce texte. Il n'y a ni homme ni femme. Comme quoi, des fois, quand on veut utiliser la parole comme on veut, on sait le faire. Et puis, ce n'est pas réservé aux affranchis, mais même aux esclaves. Alors, pour nous, ça ne nous choque pas, mais c'est une nouveauté, c'est quelque chose de grand. Ce texte rejoint Acte 2 quand Pierre cite la prophétie de Joël et dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, etc. » Et dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Et dans cette parole, Pierre rappelle que la grâce, elle est accessible à tous. Esclaves, libres, femmes et hommes, vieux et plus jeunes, il y a une insistance dans le Nouveau Testament pour nous rappeler. Pour nous, c'est des choses que l'on sait. Mais ce n'était pas acquis à cette époque. Et puis, je voudrais rappeler aussi dans cette introduction qu'il n'y a pas de degré dans l'adoption. Soit tu es fils de Dieu, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de presque. On ne peut pas être presque fils de quelqu'un. Je voudrais considérer quelques incidences, conséquences de cette réalité d'être fils de Dieu. Et la première incidence, c'est le droit à une relation filiale. Parce que vous êtes fils, le verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba ». Père, quand nous expérimentons le salut, Dieu devient notre Père. Il y a beaucoup de gens qui récitent le Notre Père, peut-être que vous l'avez récité. Le Notre Père, il commence par Père. Et pourtant, beaucoup de gens n'ont pas Dieu comme Père. Ils l'ont peut-être dans le sens qu'ils sont fils d'Adam et fils de Dieu, mais ne l'ont pas par dans le sens de la rédemption, dans le sens qu'ils ont expérimenté la grâce. Et il récite notre Père. Et finalement, dans l'expérience, lorsqu'on découvre Jésus comme sauveur, on découvre Dieu comme un Père. Et c'est là où, apprendre le récit depuis notre Père, on comprend que c'est une disposition de cœur. Mais Jésus a choqué son monde en appelant Dieu son Père. Jésus était fils de Dieu dans un sens unique. Lui, il l'est par nature. Nous, on l'est devenu par adoption. Mais en même temps, Jésus, en appelant Père, il voulait nous introduire dans cette relation. Il sait qu'on peut s'approcher, découvrir en Dieu un Père, peut-être le Père qu'on n'a jamais eu. Et d'un Père, on peut attendre beaucoup de choses, notamment son amour, sa protection. Le Père, c'est celui qui pourvoit. Et Jésus nous a introduits dans cette relation-là. Alors, il a choqué son monde. Mais cette notion de relation filiale, c'est Jésus qui l'a introduit. Et c'est Jésus qui nous y introduit. Je suis rentré dans une famille, lorsque je me suis marié, c'est une famille de là-bas. Ils sont d'origine pied-noir. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, mon fils, hein, on m'a... Mais tout de suite, ça vous met à l'aise. Ça place la relation. Et c'est vrai. Et bien Dieu, c'est ce qu'il fait, dit mon fils. Alors, on ne dit pas avec cet accent. Mais il nous a accrochés comme des fils et des filles de Dieu. On a accès droit à une relation filiale. Avant, on ne pouvait pas. Et ça, c'est bon de se le rappeler. On est devenu fils et fille de Dieu et on a un Père. On a aussi reçu le droit d'user de son nom. Un fils porte le nom de son père. Et chez certains, il porte même le prénom du père. Et on remarque ça un petit peu dans beaucoup de pays, dans toutes les époques. Rappelez-vous, lorsque Zacharie a eu son enfant et qu'il a décidé de l'appeler Jean, ça a réagi autour de lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle. Il fallait l'appeler Zacharie. Enfin, il l'a appelé Jean et il va devenir Jean le Baptiste, le baptiseur. Dans Actes 15, verset 14, il est question de l'Église et il est dit d'un peuple qui porte son nom. Quand Dieu nous adopte, quand nous devenons fils et filles de Dieu, nous portons son nom. Je vous rappelle un incident qui s'est déroulé dans la ville d'Éphèse. Acte 19, verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et c'est intéressant, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Chose un peu étonnante, mystérieuse, on sait que cet incident a eu un effet retentissant. Des personnes s'étaient mises à imiter Paul, à prêcher en son nom, à parler en son nom, à prier en son nom, à chasser les démons en son nom, et ils vont avoir une réaction inattendue. Savons qui il est. Je sais qui est Paul, mais qui, vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Ils n'avaient pas le droit d'user du nom de Jésus parce qu'ils n'étaient pas fils et filles de Dieu. Je le dis comme ça, on pourrait le dire autrement, mais ils n'avaient pas le droit, le privilège d'user de son nom. Jésus nous a donné son nom et en son nom, nous prêchons. En son nom, nous pouvons nous approcher de lui. En son nom, nous pouvons le prier. Et Jésus nous dit que si nous prions en son nom, on peut s'attendre à être exaucé. En son nom, nous pouvons guérir les malades. En son nom, nous pouvons chasser les démons. Il y a dans ce nom-là quelque chose de grand. Alors, ce n'est pas une formule magique. Quand nous agissons en son nom, nous agissons de sa part. Nous agissons pour son compte, nous agissons sous sa couverture. Il y a un petit peu tout ça. On fait référence, bien sûr, à la personne du Sauveur et à l'œuvre de la croix. Mais Jésus nous a donné son nom. Mais à ceux qui sont devenus fils et filles de Dieu. Mais c'est bon de se le rappeler. C'est quelque chose, il y a une autorité. Des fois, on va la chercher, l'autorité. Peut-être qu'on l'a déjà. Hein. Qu'il faut raisonner comme ça. Et puis, le fait d'être fils et fille de Dieu nous donne droit à un héritage. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors on ouvre là un vaste sujet, ça mériterait de s'y attarder sur tout un message et peut-être même probablement plus. Mais disons qu'on est héritier du salut, en se rappelant que dans le salut, il y a une double dimension. Le salut, c'est maintenant. Et en même temps, on est sauvé en espérance. D'ailleurs, dans tous ces grands mots du salut, il y a souvent un double niveau. Je viens de parler de l'adoption. L'adoption, c'est maintenant. Et en même temps, quand on lit un petit peu après, c'est dans Romains chapitre 8, verset 23, il dit « Nous soupirons nous-mêmes, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » La rédemption aussi, elle est à deux niveaux. On l'a vécu. La rédemption, elle est passée. On a été racheté de nos péchés. Et en même temps, on l'attend. Il y a souvent ce double niveau. Et c'est vrai pour, bien sûr, d'une manière générale, pour le salut. En tout cas, je voudrais dire ceci par rapport à l'héritage. Le fait d'être fils nous donne droit à cet héritage. Et quand l'apôtre Paul parle d'héritage, il parle souvent, bien sûr, de ce qui est à venir, de ce qui est céleste, de ce qui nous attend. Et je crois que c'est important, en tous les cas, de considérer cela. On ne veut pas être comme certains fils qui pensent qu'à l'héritage par rapport à leurs parents, c'est pas ça. Mais quand même, en tous les cas pour nous, sur le plan spirituel, la Bible nous invite à considérer ce qui nous attend, à regarder aussi plus loin, parce que le fait de concevoir et de considérer l'avantage nous amène à nous détacher des choses d'en bas. Et reconnaissons-le, mais on est vite accaparé par les choses d'en bas. Il y a même un certain évangile qui s'occupe que des choses d'en bas. Et nous, on a aussi besoin de considérer ce qui est à venir. Et il doit y avoir cette double dimension dans notre cœur. Oui, on vit ici-bas. Et on doit faire face à toutes sortes de nécessités. Il faut travailler, il faut manger, etc. Et on a besoin que Dieu nous secoure dans ces besoins-là. Mais rappelons-nous quand même aussi que dans notre cœur, on regarde loin. Et qu'on est étranger et voyageur sur cette terre. Et que notre cité qui nous attend, elle est là où il y a. On doit toujours cultiver cette notion-là. Parce que si j'oublie ce côté héritage, je vais être que sur les choses de la terre. Et finalement, on va ressembler un peu aux païens. Il n'y aura pas de différence. C'est important de se le rappeler, de ne pas se laisser absorber par ces choses-là. Je voudrais dire aussi ceci, c'est que dans l'héritage, il y a cette dimension-là. Et puis, vous savez, dans les notions, dans les héritages, quand il y a un héritage qui est donné, c'est souvent long pour le toucher. On est bien placé pour le savoir ici. Et en même temps, des fois, il y a des choses qu'on peut toucher immédiatement. Par exemple, l'assurance vie. C'est débloqué assez rapidement. Et je dirais, dans l'héritage, donc, il y a cette double dimension. Il y a des choses qui sont à venir et on les garde dans notre cœur. On les fixe du regard. On veut regarder plus loin. Ça nous aide. Hein. Je pense à ce texte qui dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables avec le poids éternel de gloire qui nous attend. Hein, c'est-à-dire que cette perspective de l'héritage nous aide à relativiser les souffrances du temps présent. Mais en même temps, il y a cette dimension présente. Et on sait qu'on a déjà un petit peu goûté aux arts de cet héritage. Il y a des choses qu'on a besoin de saisir maintenant, d'y rentrer, les choses de l'esprit. La Bible parle d'une sagesse d'en haut. La Bible parle d'une puissance d'en haut. La Bible parle de la vie d'en haut. Pas la vidéo, la vie d'en haut. Et la possibilité de saisir. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est important pour nous. Il ne faudrait pas qu'on soit comme le fils aîné. Hein. Le fils aîné qui attendait que son père meure. Je ne parle pas du fils cadet. Hein. Le fils aîné qui attendait que son père meure pour toucher son héritage. Et vous rappelez ce qu'il lui dit ? Mais tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est-à-dire, pourquoi t'attends plus tard pour en profiter, tu peux déjà jouir. Et il y a des choses qui sont déjà disponibles pour nous. Il y a des choses qui sont accessibles. Alors c'est vrai que la difficulté pour nous, il y a ce qui est accompli, ce qui est à venir, il y a le maintenant, le pas encore, pas toujours évident pour nous. Mais quand même, ne passons pas à côté. Il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Notamment dans les choses de l'esprit, ne passons pas à côté. Mais saisissons-les. Le fait d'être fils et fille de Dieu nous donne droit aussi à un châtiment. Ah là, certains pourraient dire, frère, ça se gâte là. C'était bien au début, l'héritage, tout ça, mais là, ça nous intéresse moins, oui. Hébreux chapitre 12, verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Pardon. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dieu châtie comme un père ses fils. Ça nous emballe moins. Le mot traduit par châtiment, c'est le mot pédaïa qui a donné pédagogique, et il signifie éducation, instruction, correction dans le but d'éduquer. Et il est clairement dit dans ce passage qu'un fils a droit, et même c'est absolument nécessaire de l'éduquer. Un enfant qui ne serait jamais corrigé, c'est un enfant qui est en danger. On est bien conscient de ça. Des parents qui ne reprendraient jamais leur enfant. « Oh, il faut le laisser se développer. » C'est un futur délinquant ou c'est un futur despote? On le sait très bien, tout ça, même si c'est jamais facile de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir, interdire, corriger. Mais s'il n'y a pas de correction, l'enfant est en danger. Et alors il y a un but qui nous est donné pour avoir la vie, pour leur donner la vie. Dieu nous éduque et il nous corrige de temps en temps pour nous éduquer et pour nous donner la vie. Alors ce jugement, il est à distinguer de la condamnation. Justement, Dieu nous châtie pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Alors, bien sûr, dans les faits, des fois, ça ressemble un peu aux mêmes choses. C'est des choses qui ne se passent pas comme on a prévu. Des fois, c'est difficile à vivre. Mais c'est bon de se laisser corriger par le Seigneur. Si j'en veux pas, je veux pas de correction, je suis en danger. Rappelons-nous le but de la correction. Le but, c'est qu'on devienne semblable à Jésus-Christ, qu'on devienne semblable à lui. En principe, un fils, ça ressemble au père. Ou une fille ressemble à la mère, enfin, ou vice-versa. Des fois, quand on vous dit « Ah, votre fille ressemble à sa maman », la maman, elle est toute fière. La fille, des fois, elle est moins. Mais on est fiers quand on nous dit ça. Des fois, c'est sur le caractère aussi que ça se ressemble. Des fois, je vois certains défauts chez mes enfants, il n'y en a pas beaucoup. Et je me dis, au fond de moi, ça c'est moi. On retrouve des fois des choses qu'on a communiquées malgré nous. C'est plus fort que nous. Mais Dieu, il a pour objectif des fils et des filles qui lui ressemblent. Rappelons-nous que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On connaît ce texte. Et quand vous lisez la suite, c'est pour devenir semblable à lui. C'est là le bien que Dieu vise pour notre vie. Mais ça veut dire qu'on a droit à un châtiment, à un régime spécial, on va dire comme ça, de faveur, avec de temps en temps, et ben Dieu va nous corriger. Ça fait partie de nos droits, de nos privilèges, en tant que fils et fille de Dieu. Et puis, encore un point. J'ai parlé beaucoup de droit, mais il me faut dire aussi qu'il y a un devoir d'une certaine conduite. Alors là, j'entends, là ça dérape vraiment. C'est vrai qu'on est très bon pour faire valoir nos droits. On est beaucoup moins pour faire valoir nos devoirs. Personne manifeste pour faire valoir « on a des devoirs ». Non, on fait valoir ses droits. C'est normal, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Mais quelle est la pensée de Paul quand il écrit « Maintenant, vous êtes fils de Dieu » Ça veut dire « conduisez-vous comme des fils de Dieu? Il y a un statut UT à défendre. Il y a un titre à défendre. Dans Romains chapitre 8, verset 13, il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là, dans le sens que, en tant que fils de Dieu, il y a une conduite à avoir. Il y a une manière d'agir qui va avec. Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le texte que je lis là, il rejoint celui que nous avons lu. Abba Père, adoption, héritage, il y a tout un vocabulaire et des notions qui reviennent. Mais il y a ce texte, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que le fait d'être fils de Dieu a des conséquences, des implications, des effets, des nécessités, vous choisissez que le mot vous voulez, d'être conduit par l'Esprit. Autre texte, Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que fils de Dieu, je dois être un homme de paix. Je le lis dans ce sens-là. Matthieu chapitre 5, verset 43, Jésus monte le niveau. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce texte, il monte vraiment le niveau. Et là, il y a des commandements qui sont au-dessus de nos forces sur un plan humain. Et dans ce passage, Jésus nous dit finalement que, dans un sens, il exerce sa grâce sur tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il nous dit, mais vous faites la différence en aimant ce qui n'est pas aimable, en bénissant ce qu'on ne peut pas bénir. Vous voyez, et en tant que fils de Dieu, parce que vous êtes et parce que vous serez. Alors quand vous serez dans le sens que vous démontrerez, hein, je le comprends comme ça, mais vous démontrerez que vous êtes fils de Dieu. Il y a une manière d'agir qui va avec notre statut. Ce n'est pas seulement une position. Pendant longtemps, quand je pensais fils de Dieu, je considérais que la position. Mais il y a beaucoup de textes bibliques qui nous rappellent, parce que je suis devenu fils de Dieu, il y a une manière qui va avec. Il y a une manière de se conduire. Un autre texte, je le méditais hier matin, et il m'a interpellé parce que je n'avais pas vu ça. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. À nouveau, on retrouve cette même pensée. Le fait d'être fils et fille de Dieu fait qu'il y a une conduite à avoir, des attitudes à avoir. Ici, il y a la recommandation de ne pas faire des associations qui mettraient en péril notre foi, qui donneraient un témoignage confus, qui ferait pencher vers l'idolâtrie ou vers l'abandon de, de la foi, alors il n'est pas possible de mettre toutes les formes d'association. C'est un texte qui me pose souvent question. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été partagé vendredi soir parce qu'il y avait des éléments de réponse dans ce que Stéphane Willem a partagé. Mais ce n'est pas facile parce qu'on sait qu'on ne peut pas exclure toute forme d'association, mais certaines, en tous les cas, sont strictement verboten, interdites. Et notamment, alors c'est difficile de dire lesquelles, mais il est évident que certaines rentrent parfaitement dedans dans le fait qu'on ne doit pas, notamment le mariage. On ne se marie pas avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi. Alors je ne dis pas ça pour accabler ceux qui sont dans cette situation-là. Je le dis pour les plus jeunes, pour ne pas commettre des mauvais choix. Parce qu'après on pleure. Et on pleure longtemps. Et on pleure toute sa vie. Et des fois certains, on les perd. Il y a cette pensée, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne se conduit pas n'importe comment. Rappelons-nous tous ces privilèges qui découlent du fait d'être fils de Dieu. On porte un nom glorieux sur notre vie. Le nom de Jésus. Et ça ouvre beaucoup de portes. Je dis bien, ce n'est pas une formule magique, mais c'est quelque chose de glorieux. Et ça nous donne un privilège, des droits dans ce domaine-là. Ça, je dis bien, ça ouvre les portes que... les seules portes que Dieu peut ouvrir. Rappelons-nous que le fait d'être fils et fille de Dieu donne part à son héritage. On est héritier. Mais il y a une double dimension. Il y a déjà des choses à prendre maintenant, même si la notion d'héritage nous fait regarder plus loin. Elle nous détache un petit peu des choses terrestres. Rappelons-nous que ça nous ouvre le droit à une relation filiale. Et qu'on peut trouver en Dieu un papa qui prend soin de nous. Et je le dis bien des fois à certains qui n'ont pas eu le papa qu'il fallait. Parce que des fois, moi je sais que j'ai été un peu bloqué pendant à un moment donné avec cette notion de père. Certains ne l'ont pas eu. Mais on peut trouver en Dieu vraiment un père qui pourvoit, qui prend soin de nous, qui nous aime, qui est là, disponible. Et puis, rappelons-nous qu'il y a un droit aussi à un châtiment, à de la correction. Eh oui, mais on sait que c'est pour notre bien, c'est pour notre édification. On est comme des enfants, des fois on part un petit peu dans tous les sens et hop, le Seigneur il essaye de nous récupérer. Alors, la difficulté pour nous c'est d'être attentif, de ne pas se mettre en danger. Et puis rappelons-nous qu'il y a quand même un devoir d'une certaine conduite. Le fait d'être fils et fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ fait qu'on ne va pas se conduire n'importe comment et on veut manifester une bonne différence, de la bonne manière. Je termine simplement en lançant un double appel. On va se mettre à louer le Seigneur, mais à celui qui n'est pas fils de Dieu ce matin, je voudrais dire, deviens fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui, ouvre ton cœur à Jésus. Décide-le, après c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait naître d'en haut, mais qu'il y ait cette démarche du cœur. Et pour nous tous qui sommes fils et filles de Dieu, qui avons ouvert notre cœur, on a reçu Jésus-Christ comme sauveur, rappelons-nous tous les droits et les privilèges qui vont avec la position que Jésus nous a donnée, mais rappelons-nous aussi qu'il y a quand même une conduite qui va avec et on veut glorifier celui qui nous a pris sous son aile, celui qui nous a adoptés. On veut louer le Seigneur et l'adorer ce matin.